Que dit Dieu dans Romains chapitre 3 ? Romains chapitre 3, verset 1 à 31. Quel est donc l'avantage des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste, quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers, pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est à manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient tes victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Dans tout le chapitre 3 de Romains, l'apôtre Paul affirme avec force que les Juifs ne peuvent pas obtenir le salut simplement en observant la loi ou en accomplissant des rituels religieux traditionnels, et il présente Jésus-Christ. Après que Paul a clairement révélé pourquoi la foi juive dans la loi et les traditions religieuses ne peut conduire au salut, il présente Jésus-Christ, non pas comme une simple alternative, mais comme l'unique voie. Le cœur de ce chapitre peut se résumer ainsi : la justice humaine s'est effondrée, mais à travers l'Évangile, la justice de Dieu est apparue de nouveau. Paul place d'abord les Juifs et les païens sur la même ligne et déclare qu'il n'y a point de juste et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour les Juifs, la loi n'était pas un privilège mais une responsabilité. Et la loi, au lieu de rendre les hommes justes, ne faisait que jouer le rôle d'un miroir de jugement qui révèle plus clairement le péché. En fin de compte, parce que la tradition religieuse peut créer la forme de la foi, mais ne peut pas ôter le péché. Paul parvient à la conclusion que, par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant Dieu. Le tournant décisif du chapitre 3 de Romains commence par la proclamation que maintenant, indépendamment de la loi, une justice de Dieu a été manifestée, et que c'est celle à laquelle la loi et les prophètes ont déjà rendu témoignage. Ici, la justice de Dieu dont parle Paul n'est pas la justice morale que les hommes construisent par eux-mêmes, mais la justice que Dieu lui-même accomplit et donne gratuitement. Cette justice de Dieu a été constamment annoncée tout au long de l'Ancien Testament. Et a été clairement révélé à travers l'événement historique de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ que Paul présente est clair. Bien que Jésus fût sans péché, il a porté les péchés des pécheurs à leur place. C'était la manière que Dieu a établie pour traiter le péché avec justice, sans jamais le négliger. La croix est le lieu où l'amour et la justice de Dieu sont manifestés simultanément. Dieu n'a pas simplement accompli la rémission du péché sans condition, mais en exerçant un jugement juste sur le Christ qui a pris en charge le péché, il a manifesté sa propre justice. Par cela, Dieu a accompli le dessein de maintenir sa propre justice tout en justifiant celui qui croit en Jésus. De plus, la résurrection de Jésus est la déclaration définitive de Dieu que l'expiation accomplie sur la croix est complète. Ainsi, la justice de Dieu est devenue non pas un concept vague, mais un fait certain. Paul conclut que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le point important ici est que ce salut est un don de Dieu dans lequel tout mérite humain est exclu, et qu'il est donné uniquement par l'œuvre de Jésus, entièrement fondée sur la grâce de Dieu. En fin de compte, la conclusion finale que transmet le chapitre 3 de Romains est que nul ne peut être sauvé du péché par la loi, la tradition religieuse ou le zèle humain. Seul Jésus-Christ a manifesté sur cette terre la justice de Dieu, a accompli l'expiation pour tous les pécheurs et a ouvert le chemin de vie qui justifie ceux qui croient. Le point central que l'apôtre Paul a souligné est que l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas au niveau de compléter la justice humaine, mais qu'elle était l'œuvre de mettre fin à la justice humaine et de sauver les pécheurs par la justice de Dieu. Ainsi, le salut n'est pas une récompense obtenue en défendant la tradition, mais est un don complet reçu par la foi en la justice déjà accomplie du Christ. Quel est fait le ministère de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre et a manifesté la justice de Dieu, a-t-il eu sur les pécheurs? Le ministère de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre et a manifesté la justice de Dieu, a apporté un changement décisif et substantiel aux pécheurs. Ce n'était pas une simple amélioration de la condition du pécheur, mais un événement qui a fondamentalement renversé son statut et sa destinée. Avant tout, les pécheurs ne sont plus des objets de condamnation, mais ceux qui ont été justifiés. La justice de Dieu que Jésus-Christ a manifestée n'était pas un simple report temporaire du jugement, mais une déclaration d'une justice légalement parfaite. Jésus n'a pas simplement couvert le péché, mais en le prenant personnellement en charge et en recevant le jugement, il a complètement ôté la condamnation qui devait tomber sur les pécheurs. Par conséquent, le pécheur n'est plus un être craintif attendant le jugement, mais il est désormais placé devant Dieu comme un juste. Par le résultat de ce ministère de Jésus, la peur et l'angoisse fondamentales concernant le péché ont pris fin. Jusqu'à ce que la justice de Dieu apparaisse, les pécheurs vivaient avec un doute constant quant à savoir si leur péché était réellement résolu, mais le ministère de Jésus-Christ a apporté une réponse définitive à cela. Le péché avait déjà été imputé à lui, le jugement a été exécuté sur la croix et le résultat a été confirmé par la résurrection. Par conséquent, le pécheur n'a plus besoin d'être lié par une culpabilité répétitive ou une repentance incertaine, et la justice de Dieu libère le pécheur de la peur. De plus, ils ont été libérés du joug de chercher à accumuler leur propre justice. L'apparition de la justice de Dieu signifie que la justice humaine n'est plus nécessaire. Ils ont déposé le lourd fardeau de chercher à se sauver par les œuvres ou le zèle et sont entrés dans une vie de foi avec la confession que seule la justice du Christ est suffisante. La justice de Dieu dépasse une déclaration légale et implique la restauration de la relation avec Dieu. Par le ministère de Jésus-Christ, la barrière du péché qui se dressait entre Dieu et les pécheurs a été renversée et le chemin pour s'approcher de Dieu avec assurance a été ouvert. Désormais, le pécheur n'est plus un être qui évite Dieu par peur, mais il est devenu un enfant qui cherche le Père. Cette justice de Dieu est confirmée dans le cœur de chacun par le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet de croire que le ministère de Jésus-Christ est le salut précisément pour moi, et il témoigne que cette justice a déjà été donnée. Par cela, le salut du pécheur n'est pas ébranlé par des fluctuations émotionnelles personnelles, mais il est solidement établi sur le fait objectif de la justice de Dieu. Enfin, le pécheur a reçu une identité entièrement nouvelle. À cause du ministère de Jésus-Christ, ils ne sont plus ceux qui sont dans le péché, mais ceux qui sont dans la justice, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ. Ce changement d'identité transforme fondamentalement la direction de la vie, et il ne commence pas par la correction du comportement, mais par un changement de statut. En conclusion, le ministère de Jésus-Christ, en accordant la libération de la condamnation, la restauration de la relation et une nouvelle identité, a rendu réel dans la vie pratique les paroles, car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Quelle était la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs de leurs péchés dans son œuvre de salut, a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui les péchés du monde, puis a été pendu à la croix? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste, puis a été crucifié sur la croix. C'était pour prendre réellement sur lui les péchés de l'humanité selon la justice de Dieu et pour accomplir le jugement juste pour ses péchés, et cela constituait une procédure essentielle pour le salut. D'abord, bien que Jésus fût sans péché, il a reçu le baptême parce qu'un processus officiel de transfert du péché était nécessaire pour qu'il prenne le péché à la place des pécheurs. Jean-Baptiste était la figure qui représentait le rôle final du souverain sacrificateur qui, dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, transférait les péchés sur l'offrande sacrificielle par l'imposition des mains. Par conséquent, le baptême dans le Jourdain n'était pas pour une repentance personnelle mais un acte public et légal par lequel les péchés du monde ont été transférés à Jésus. Les paroles de Jésus, lorsqu'il a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », était précisément une déclaration qu'il accomplirait ce processus juste du salut de Dieu. L'essence du baptême ne réside pas dans le rituel lui-même, mais dans le fait que le péché a réellement été transféré. Lorsque les péchés de l'humanité ont été transférés à Jésus, les types de l'Ancien Testament ont rencontré leur réalité. Et le problème du péché a été traité comme un événement historique, non comme une question d'émotion humaine. Jésus, ayant ainsi pris sur lui les péchés, devait en payer le prix. Parce que Dieu est saint, il ne pouvait pas passer le péché sous silence, et parce qu'il est juste, il devait exécuter le jugement. La croix est précisément le lieu où cette justice a été accomplie. Car le salaire du péché, c'est la mort, une peine juste a été imposée à celui qui a porté le péché, et Dieu a accompli le chemin pour sauver les pécheurs sans compromettre sa propre justice. La croix, avant d'être un symbole d'amour, est le lieu où la justice de Dieu a été accomplie. En conclusion, le baptême et la croix sont une œuvre de salut unique et inséparable. En effet, sans le baptême, il n'y a pas de péché transféré. Et sans la croix, il n'y a pas de jugement exécuté. Ainsi, le salut est une histoire continue dans laquelle le péché est transféré par le baptême. La peine est payée par la croix et sa perfection est confirmée par la résurrection. Tout ce processus constitue la justice de Dieu. Grâce à cette œuvre, les pécheurs n'ont plus à s'attacher à leurs péchés et à répéter une repentance douloureuse, mais peuvent laisser derrière eux les péchés déjà jugés et achevés, et se tenir avec assurance comme des justes. Le salut n'est pas une question de décision humaine, mais d'accepter par la foi ce fait clair que Jésus-Christ a déjà accompli. Pourquoi toute l'humanité doit-elle croire en Jésus-Christ ? La raison pour laquelle toute l'humanité doit croire en Jésus-Christ n'est pas simplement un choix religieux, mais parce qu'il est le seul chemin qui a réellement résolu le problème du péché et de la mort. La foi dont parle la Bible n'est pas le fait de suivre une idéologie, mais d'accepter le fait du salut déjà accompli. La Bible déclare que toute l'humanité est sous le péché. Le péché n'est pas ôté par l'éducation, l'éthique, la culture ou la philosophie, et il ne peut pas non plus être résolu par le zèle religieux. Parce que le péché est un problème qui sépare fondamentalement l'être humain de Dieu, il ne peut jamais être résolu par les hommes eux-mêmes. Seul Jésus-Christ a réellement porté les péchés de l'humanité. Il n'est pas venu comme un enseignant pour instruire les pécheurs, mais comme un sauveur venu prendre personnellement sur lui le péché et le traiter. Par le baptême, Jésus a pris sur lui les péchés du monde, a reçu le jugement pour ses péchés sur la croix et a prouvé la perfection du salut par sa résurrection. Cette œuvre est un salut accompli une fois pour toutes que personne ne peut remplacer et qui n'a besoin d'aucun complément. De plus, seul Jésus-Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu. Le Dieu juste ne pouvait jamais simplement passer le péché sous silence. Mais parce que Jésus a reçu le châtiment à la place des pécheurs, Dieu peut désormais déclarer juste, avec justice, ceux qui croient en lui. Si l'on ne croit pas en Jésus-Christ, le problème du péché demeure en chacun. Peu importe à quel point on vit moralement, si le péché n'est pas ôté, on ne peut que rester sous la condamnation. Ne pas croire signifie laisser l'œuvre de Jésus comme quelque chose sans rapport avec soi-même, et le péché ne disparaît pas de lui-même si l'on ne croit pas. Par conséquent, la foi n'est pas une question de préférence, mais une question essentielle directement liée à la vie et à la mort. Ce n'est que lorsque l'on croit en Jésus-Christ que la véritable liberté et l'assurance sont données. Celui qui croit est libéré de l'angoisse concernant la rémission des péchés et reçoit l'autorité de se tenir avec assurance devant Dieu. En fin de compte, le salut n'est pas un chemin conçu par les hommes, mais la voie ordonnée par Dieu. Dieu n'a pas envoyé la philosophie, mais il a envoyé son propre Fils. Parce que toute l'humanité est sous le péché, et que le seul qui a mis fin à ce péché est Jésus-Christ, croire en lui, c'est accepter tel quel le salut déjà accompli. Jésus-Christ n'est pas un chemin parmi tant d'autres, mais l'unique chemin de vie pour l'humanité. La déclaration qu'il n'y a aucun autre par lequel nous devons être sauvés est précisément le cœur de l'Évangile.